Bonjour à tous, c'est Fatine, architecte et podcasteuse. Je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général. Bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles hauteurs. Sur Pep Talk with Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer un condensé de leur propre méthode, sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Et pour soutenir le podcast, merci aussi de partager autour de vous et laisser des étoiles ou commentaires sur votre app. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. I'm back. Ça fait du bien de se retrouver là, de retrouver le podcast et de refaire mes enregistrements tranquillement et... C'est pas facile du tout. Un premier enfant, c'est toute une organisation, tout un challenge, mais un deuxième, c'est encore autre chose. Et on va parler de tout ça. Je sais que beaucoup de mamans se servent des expériences des autres pour pouvoir appréhender la leur et se préparer, et ont besoin d'écouter le récit des autres pour savoir un petit peu dans quoi il se peut qu'elles embarquent elles aussi. Et ça nous aide à mieux voir les choses, et à mieux s'organiser, à mieux se préparer mentalement, psychologiquement. Et moi, la première, ça m'a tellement aidée d'écouter toutes les histoires liées à la grossesse d'autres femmes à travers le monde et comment chacune l'a vécu et les péripéties qu'elle a rencontrées. Et bien que chaque grossesse est complètement différente, l'une ne ressemble pas à l'autre, j'en suis la preuve. Ma première grossesse et ma seconde n'ont absolument rien à voir. Il y a énormément de similarités, certes, mais de grandes différences, énormément de différences, l'une ne ressemble pas à l'autre. Et on va parler de tout ça, de comment s'est passée ma grossesse et mon accouchement. Je sais que pas mal d'entre vous l'attendent et je vous ai fait longtemps patienter et j'ai pas tenu parole parce que voilà, c'est pas facile de gérer son emploi du temps avec des enfants sous la main. C'est beaucoup de challenges. Alors maintenant, je suis là et c'est ce qui compte. Et on va en parler, on va dive in. Et une des premières questions que je reçois, c'est pourquoi Fatine ? Pourquoi un deuxième enfant maintenant ? Ton aîné est encore très très jeune. Effectivement, quand je suis tombée enceinte, elle avait un an et quoi, 3-4 mois. Oui, c'est jeune. Et j'ai longtemps réfléchi et on a longtemps réfléchi. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup au feeling, à l'instinct. On fonctionne beaucoup au coup de cœur, même dans nos choix, dans nos achats, dans nos décisions. Mais une autre partie de moi, qui est très majoritaire, est très cartésienne. Et j'aime réfléchir aussi avec la tête. Et Ali plus au feeling. Donc on a pas mal discuté, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et je pense que la chose qui m'a vraiment et réellement motivée, c'est que... Comme on dit en arabe, fik. Et je me disais, tant que je suis dedans, autant y aller et en finir une bonne fois pour toutes. Et je sais que ça va être dur. Je sais que ça va être plus dur. Parce que quand on a un enfant de 7, 8, 9 ans ou 5 ans, on commence à sortir la tête de l'eau, l'enfant est plus autonome. Quand on a un deuxième, on a plus de temps à lui consacrer, il y a moins de guilt, il y a moins de... pas aussi difficile que quand t'as un nouveau-né et qu'en plus de ça, t'en as un autre qui a moins de 2 ans ou 2 ans sur les bras. Donc, effectivement, je savais que ça allait très très dur. C'est très très dur. Mais je savais aussi qu'à long terme, j'allais être tranquille plus tôt. Et j'allais me retrouver plus tôt. Et je pense que cette quête vers l'ancien moi est faussée, mais pas totalement infondée. C'est faussé parce que je serai jamais et plus jamais celle que j'étais avant. Maintenant, je suis maman, maintenant j'ai 2 enfants, maintenant la vie a changé. Je serai jamais la Fatine qui avait 22, 23 ans. Voilà, mais je peux retrouver une vie où j'ai plus de temps pour moi, où je peux mieux m'organiser, où je peux me retrouver avec moi-même, où je peux faire mon programme sans réfléchir à comment gérer ceci ou cela. Et plus tôt j'y arrive, mieux c'est. Donc c'était un peu ça la réflexion, et je suis sûre que plein peut-être penseront comme ça, et d'autres vraiment pas du tout. Mais voilà, moi c'était un peu ma vision, donc fic, c'est parti. Et ce qui est pas drôle, c'est que il y a eu beaucoup de back and forth par rapport à cette décision, parce qu'un coup j'étais pour, et puis un autre je remettais en question cette décision, et donc il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et c'était pendant une période où j'étais encore mitigée et pas encore totalement convaincue que c'est arrivé. Donc on va dire que c'était voulu mais inattendu. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je pensais que à ce moment-là, donc j'étais malade, j'étais sous antibiotiques, j'avais une grosse bronchite, une grosse inflammation des bronches, j'avais fait 2 fois une radio, j'avais entamé un antibiotique, enfin, voilà, sans dessus dessous, et j'avais eu un retard de règles à ce moment-là, et je me disais, mais ça doit être, enfin, je suis malade. Quand t'es malade, il y a peut-être un chamboulement hormonal, il peut y avoir des retards, donc c'est pas méchant. Mais un truc aussi qui me disait, Fatine, t'es très régulière, ton cycle est très régulier. Donc voilà, donc je l'ai appris en étant quand même un peu sous le choc, malgré que ce soit voulu, parce que tu peux vouloir une chose, mais une fois que ça arrive, bon, bah, maintenant c'est le cas. Donc faut assumer, faut. Tu te rends compte de tout ce qui va arriver, tu commences à réimaginer le process, à revoir ce que tu as vécu la première fois. Et pour ceux qui connaissent le récit de ma première grossesse, savent que c'était une grossesse très difficile. Si vous allez voir les épisodes de mon podcast, j'en parle, le périple de ma première grossesse, qui était très dur. Et j'avais très très peur que ça m'arrive encore. Cette fameuse éruption polymorphe liée à la grossesse, ce PUPPP. Voilà, donc c'était très dur à vivre, c'était un cauchemar, un cauchemar. Et imaginer revivre ce scénario une deuxième fois, c'était inimaginable pour moi, impossible. Je ne dois pas revivre ça. Je ne suis pas capable de revivre ça. Je l'ai vécu une fois, je ne sais même pas comment j'ai pu réussir à passer mes journées et à survivre à tout ça. Et puis, s'il y a vraiment une chose qui me faisait peur à l'idée de retomber enceinte, c'était ça. C'est que la deuxième grossesse ressemble à la première. Donc ça, c'était une crainte qui était en moi et qui m'a suivi toute ma deuxième grossesse, et qui ne m'a pas quittée. Qui ne m'a pas quittée jusqu'à vraiment les 2 derniers, ou plutôt le dernier mois, je commençais à me dire, bon, ben, c'est bon, maintenant, je vois le bout du tunnel, donc ça veut dire que cette grossesse n'est pas comme la précédente. J'ai eu une grossesse différente. Donc, effectivement. Donc, ça, c'était une crainte que j'avais. Et puis, donc, quand je suis tombée enceinte, il fallait l'annoncer à la famille. Et je vous préviens, l'annonce d'une seconde grossesse n'est pas l'annonce d'une première grossesse. Pour la première grossesse, les parents, la famille, voilà, tout le monde est super content. C'est le premier bébé, c'est super. Beaucoup d'émotions, on pleure, on est content, voilà. Quand ce que j'entends autour de moi, c'était mon cas aussi, et quand on annonce une seconde grossesse, le discours est un peu différent. Donc c'est bon à savoir, ça. Si vous comptez annoncer une seconde grossesse, n'ayez pas trop de big expectations sur la réaction. Peut-être qu'ils vont réagir de la même manière, mais peut-être que pas du tout. Donc juste lower a little bit your expectations vis-à-vis de ça, et dites-vous que ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et que c'est votre décision et celle de personne d'autre. Donc, très très rapidement, s'est installé un mom guilt, où je pensais à Maya et je me disais, mais elle va m'en vouloir. C'est ma fille, et elle a moins de 2 ans, elle a 1 an quelques, et quoi, maintenant, je vais créer de la place pour un autre bébé, et je vais avoir moins de temps pour elle, et je vais devoir lui expliquer que maintenant, il n'y a plus que elle. Alors, c'est pas facile. Et ce mom guilt, il naît comme ça, déjà un peu avant la grossesse, parce qu'on se pose des questions qu'on se pose. Et puis, quand ça vient, ça s'installe et on se pose beaucoup de questions. Et comment je vais gérer tout ça? Et comment je vais lui annoncer? Et comment elle va le prendre? Et que tu commences à te préparer à l'après. Et vous le savez, moi j'adore tout ce qui est, j'adore m'informer sur ce genre de questions. J'aime beaucoup lire, Et ça a été vraiment tout de suite le domaine de prédilection vers lequel j'allais me consacrer pendant cette grossesse. Et comment gérer l'annonce du deuxième bébé, comment gérer mon aîné vis-à-vis à l'arrivée du deuxième bébé, comment faire en sorte que les relations entre les deux soient au top, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a pas mal obsédée au cours de ma grossesse et c'était un sujet pour moi qui était important. Mais j'ai réalisé à un moment de ma grossesse que je n'apportais pas un deuxième bébé, entre guillemets, concurrence à Maya, mais je lui apportais, enfin, c'est un cadeau que je lui fais que d'avoir une petite sœur ou un petit frère, c'est it's a blessing. Et c'est une fois que mon mindset a shifté vers ça. Ça a complètement changé ma vision. Et et finalement, c'est ça le message que j'avais envie de lui faire passer. C'est que quel cadeau maintenant que tu as d'avoir une sœur et de pouvoir partager des choses avec elle. Et maintenant, on dit je t'aime à sa sœur aussi. C'est de l'amour qu'on porte en nous. Et donc, c'est un peu ça le mindset vers lequel j'ai shifté. Et ça a complètement changé ma vision. Alors, pour revenir à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est mes craintes pendant la première grossesse. Parce que vraiment, au début, c'était vraiment juste de penser à mon bébé. I'm cheating. C'est pas. Je dois pas penser à un deuxième bébé, mais comment ça? J'ai déjà un bébé. Je vais pas. Voilà. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me connecter à ce deuxième bébé. J'ai mis beaucoup de temps à. Quand j'étais enceinte de Maya, je lui parlais, je chantais des chansons, je mettais de la musique, je dansais, enfin, j'étais vraiment connectée à ma grossesse et à mon bébé avant même qu'elle n'arrive. Et on a créé une relation comme ça très très spéciale. Et quand elle est venue au monde, c'était comme si je la connaissais déjà quelque part. Avec ma deuxième grossesse, pas du tout. J'ai mis beaucoup de temps, le temps que je réalise et que mon mindset change. J'ai beaucoup et pendant longtemps, enfin, je me suis quelque part indirectement empêchée de créer un lien avec ce deuxième bébé parce que pour moi, c'était comme si je trompais la relation que j'avais avec ma fille et c'était avec mon aîné. Et donc, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Et je me souviens qu'Ali me disait, Alors, tu l'aimes déjà ou pas encore? Et j'avais beaucoup de mal à répondre à cette question. Et bon, c'est fini par venir, effectivement. Et puis quand elle est née, quand on la voit, sa fille, on oublie tout. Mais oui, un deuxième bébé, c'est pas comme un premier. C'est pas comme un premier. L'expérience est différente. Et puis évidemment, quand ils viennent, on les aime tous de la même intensité et toujours autant. Mais c'est une expérience différente. C'est différent. Et je vous parle avec Lily dans les bras parce que j'ai dû faire une pause pour aller là. Voilà. Pour aller la récupérer. J'espère qu'elle va tenir bon pendant que je vous raconte tout ça. C'est que y a un truc qui est complètement différent de ma première grossesse, c'est que la première, ben, j'étais à Bruxelles. Et donc, j'ai vécu une grossesse à l'étranger, en Belgique, et un accouchement aussi à Bruxelles. Donc, c'était une très très belle expérience malgré la grosse difficulté et les gros challenges que j'ai vécu pendant ma grossesse. Mais mon accouchement belge a mis la barre très très haute, tant au niveau du staff médical que du corps médical que de la salle d'accouchement, que enfin, du matériel, de l'ambiance générale, des nurses, tout. Et j'appréhendais énormément l'accouchement au Maroc. Enfin, de toutes les histoires que j'entendais, c'était horrible. La plupart sont pro-césarienne. Les sages-femmes, les nurses sont exécrables. Ton projet de naissance, enfin, tu peux l'oublier. Finalement, elles font ce qu'elles veulent. Donc voilà, j'appréhendais énormément ce genre de choses et je me disais, mais. Comment ça va être complètement différent. Je ne sais pas comment ça va se passer ici et j'ai vraiment peur d'être déçue. Et il fallait absolument que je lower my expectations, que j'arrête de comparer, que je me dise que chaque expérience est différente et ça ne veut pas dire que l'une sera meilleure ou pire que l'autre, c'est juste que ce sera différent. Et ce que je peux faire par contre et ce que je peux contrôler de mon côté, c'est de faire un bon choix de gynéco, de lui faire part de mes inquiétudes, de choisir une clinique qui me convient et de rester sur mes positions quand quelque chose ne me plaît pas, et de communiquer la chose et de ne pas subir, et qu'au final, c'est moi la maman, c'est moi qui sais faire, que je sois même, que ce soit même pour une première grossesse. Une fois qu'on est maman, on sait faire, c'est instinctif, et on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour notre bébé. Donc, il faut se faire confiance, et il faut communiquer, et il faut dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et il ne faut pas hésiter à dire non. Et ça, c'est vraiment il y a Lily qui vous dit bonjour. C'est vraiment le motto que j'avais pendant, et que j'avais envie d'adopter. Et je sais que ce n'est pas évident, une fois in situ, mais il faut s'en souvenir, et il faut que notre partenaire soit là pour appuyer nos dires et enfin, nous soutenir dans tout ça et nous le rappeler quand on a tendance à l'oublier qu'on n'ose pas dire quelque chose, qu'il soit là aussi pour nous dire, attends, n'oublie pas que voilà, maintenant, nous, on ne veut pas de biberon, on veut le pot à pot, on veut ceci, cela. Donc, vous êtes deux. Et ça, c'est très important. Alors, ma grossesse, au final, s'est passée relativement bien. Et de toute façon, la première était tellement difficile que j'avais l'impression que quoi qu'il arrive, c'est easy. Des maux de dos, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Vas-y, balance. Qu'est-ce que tu vas me balancer? Ce sera rien par rapport à ce que j'ai vécu pendant la première. Et ça m'a beaucoup aidée à mieux vivre les choses et à toujours être, à rester positive et à voilà. Bon, effectivement, il y a des symptômes qui sont pas faciles à vivre au quotidien. À tes souhaits et à tes amours. Il y a des choses qui sont pas faciles à vivre au quotidien. J'ai une pubalgie, donc c'était très difficile de me tourner, enfin, quand je m'allongeais ou quand je dormais, de tourner d'un côté à l'autre, c'était douloureux. En marchant, parfois c'était douloureux, voilà, des choses comme ça. C'était pas facile, certes, mais enfin, j'ai vécu pire et c'était pas. Enfin, tu sais que au bout du compte, ça finira par passer. Donc il y avait ça. Et pour celles qui veulent savoir ce que c'est qu'une pubalgie, c'est vraiment, je pense que la position du bébé joue énormément là-dedans. Et je pense que Lily, elle, sa tête probablement pressée à un endroit de mon bassin, donc qui rendait, qui créait peut-être un déséquilibre et qui donc faisait que c'était douloureux quand je faisais certains mouvements. N'est-ce pas, Lily? Et donc voilà, donc ce qui faisait que je prenais ma gynéco m'a prescrit plus de magnésium, plus de calcium, voilà, donc ce genre de choses. Et la grossesse s'est globalement bien passée à part ça. Ça a commencé un début par une grosse fatigue, mais ça vous connaissez, hein, les grossesses en général commencent par ça, donc grosse fatigue, j'avais envie de dormir à 8h30, souvent fatiguée, je bâille, j'ai envie de dormir, voilà. Et puis c'est qu'à partir de la 13e semaine que j'ai repris un rythme normal, où j'ai commencé à me rendormir à des heures un peu plus normales. Mais étant donné que Maya, c'est ça la différence quand on a déjà un aîné, déjà un bébé, c'est que Maya, elle, se réveillait très tôt le matin. Et même si je dors à 22-23 heures, enfin, j'étais complètement crevée parce que ce n'était pas suffisant pour mon corps de femme enceinte que de dormir ce nombre d'heures, et j'avais besoin de plus, j'avais besoin de gratter plus. Et donc je me suis dit, bon, il faut absolument que je dorme plus tôt, sinon c'est pas soutenable. Et c'est là que je suis quand même revenue au rythme de 21h, 21h30, pour gratter quand même quelques heures de sommeil. Donc vraiment, ça la fatigue pendant la grossesse, en tout cas en début de grossesse, très très courant. À partir de la 13e aussi, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais des difficultés à manger le soir, comme si j'avais le ventre plein. Alors que j'ai faim. J'ai faim, mais j'ai le sentiment d'avoir le ventre plein et j'arrive pas à manger. Donc c'est un peu ça. Donc des petits symptômes comme ça, on s'adapte. Mais par contre, il y a des erreurs que je n'ai pas. Des erreurs. C'est juste qu'il y a des choses que j'ai anticipées, des choses que j'avais pas envie de répéter de la même manière. Et ma première grossesse, j'avais vécu des nausées affreuses, affreuses, des nausées, des vomissements à n'en pas finir. pendant les premiers mois, et je ne voulais absolument pas revivre ça aussi, de manière aussi intense. Donc j'ai anticipé cette fois, c'était carrément direct, j'ai pas attendu. Sachant que la première fois, j'attendais qu'on me le ramène de France, donc c'était plus compliqué, il fallait attendre, patati patata. Mais du coup, là, pour ma seconde grossesse, non seulement il n'était plus juste en France, il était commercialisé au Maroc, d'ailleurs il y est, hein, à le prendre. Toujours bien sûr sous conseil de votre gynéco, mais voilà, moi je trouve que c'est parfait. Je le prends, donc je prends ça, et ça enlève les nausées, plus de vomissements, c'est magnifique, génial. Et je crois, si je me souviens bien, c'est à raison de 4 maximum par jour. Donc j'avais commencé par 2, je vais prendre 2 le soir et voir ce que ça donne. Ça allait, et je sais que je suis passée à 3 un moment parce que les nausées se sont un peu intensifiées, donc 2 ne me suffisaient plus. Je suis passée à 3, donc c'est là que tu rajoutes un comprimé le matin aussi. Et à 3, c'était bon. Donc j'en ai pas pris 4, je me suis arrêtée à 3. Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, étant donné qu'il enlève qu'il réduit considérablement les nausées, voire quasi nulle, elle devient quasi nulle. Des fois, tu as du mal à savoir si tu en as ou tu n'en as plus, parce qu'il faut bien arrêter ce médicament, tu ne vas pas le prendre toute la grossesse. Donc, à un moment donné, tu arrêtes, tu en réduis une, tu vois ce que ça donne. Et moi, à chaque fois que j'en enlevais une, au bout de 3 jours, les nausées revenaient. Donc, je savais que ce n'était pas encore ça, il fallait attendre un peu, et j'ai fini. Puis, progressivement, je faisais d'autres tentatives jusqu'à l'enlever complètement. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais anticipé très rapidement, Cariban. Et aussi évidemment prendre plusieurs repas par jour, de gros repas pour éviter d'être patraque. Voilà. Donc à partir de cette 13e semaine, la 13e semaine c'était clé pour moi. Je prenais note de mon ressenti et je faisais un peu de journaling pendant ma grossesse. Donc je me souviens de ce genre de choses. 13e semaine c'était regain d'énergie, productivité. J'acceptais mieux ma grossesse. Il y avait le mom guilt commençait à s'estomper. Donc j'étais plus en phase avec moi-même. Donc ça fait beaucoup de bien. Donc n'oubliez pas, pour celles qui vivent, je viens bientôt. Oh. Pour celles qui vivent des premiers mois difficiles et où vraiment elles ne sont pas bien avec les nausées, la fatigue et tout ça, ça va passer. Ça va passer. C'est une étape normale et importante, et on la vit toutes à des degrés différents. Mais n'oublie pas que ça va passer. Donc ça ira mieux. Voilà. Une autre étape clé de ma grossesse, c'était mon anémie. J'ai eu une anémie en fer. Donc c'est là qu'il fallait faire une perf. Ma gynéco, on en avait d'abord commencé à doubler la dose de fer quotidienne. Et par la suite, ça n'avait pas eu un énorme impact. Et du coup, elle m'a proposé de faire une perfusion de fer. Et du coup, je suis allée faire ça à la clinique. Sans citer de nom, mais pour celles qui veulent savoir, peuvent m'écrire, on peut en parler. Cette perfusion de fer, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et les aiguilles, on n'est pas très copines. Moi, les aiguilles, on n'est pas très copines. Mais bon, tiens, c'est pas, il faut faire avec, patati, patata. Mais bon, j'appréhende. Et du coup, je vais faire ma perf. Et la nana, bon, déjà, service nul. Et c'est là où vraiment je me disais, mais le rapport et le ratio expérience belge-marocaine, ça va être un gros délire. Ça va être rien à voir. Et ici, ça va être nul. Mais il faut pas penser comme ça. Mais une expérience pareille, et là, le jour où je suis allée faire ma perf, ça m'a conforté dans ce raisonnement. Et heureusement que j'en suis sortie. Et heureusement qu'on m'a prouvé le contraire au final. Mais ça m'a pas aidée. Et donc je suis allée faire ma perf, et la nana, elle me met l'aiguille. Mais je me tords de douleur. La première, elle la met mal et m'explose la veine. Une deuxième infirmière vient pour me la poser, et elle me fait mais une douleur atroce, atroce. On m'a posé une perf à Bruxelles. Bon, c'est douloureux, ça pique, et ça fait un peu mal, mais ça passe pour une petite procédure. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, si elles savent pas poser une perf, qu'est-ce que ça va être après? Et donc voilà, mauvaise expérience. Finalement, bon, elle m'a posé ma perf. ta fusion de fer et tout, et tout est rentré dans l'ordre par la suite. Donc c'était bon, mais ça m'a fait poser énormément de questions. Et enfin, dernière étape clé de ma grossesse, c'est ma visite chez la gynéco qui me dit que mon liquide amniotique s'est considérablement réduit. On ne tire pas encore la sonnette d'alarme, mais c'est à surveiller. Donc rentre chez toi, bois énormément d'eau, hydrate-toi, essaie de faire des efforts là-dessus. Et on se voit la semaine prochaine pour vérifier si le liquide a stagné ou s'il a diminué. Donc s'il diminue encore, ça veut dire qu'il faudra déclencher. J'étais à ce moment-là à la 39e. Donc, c'est la semaine aussi où j'avais accouché de Maya. Donc, pour moi, c'était une semaine cruciale. Et donc, je pars toute la semaine à boire. Enfin, je fais des efforts, tout ça. Je ne suis pas une grande buveuse. Hein, donc, je fais des efforts pour boire plus d'eau, etc. Je repars la semaine suivante. Et elle me dit, écoute, elle me le montre à l'écran. Hein, je le vois, liquide amniotique. En plus faible encore. Donc, elle me dit, bon, il faudrait qu'on provoque. C'est pas dangereux, mais c'est beaucoup d'inconfort. C'est de l'inconfort pour ton bébé. Donc, si on peut provoquer et libérer, c'est mieux. Donc, on est parti sur ça. Et il faut dire que c'est différent parce que pour Maya, j'avais perdu les os. Et moi, j'aime beaucoup cet effet de surprise. T'es chez toi, de rien, comme si de rien n'était, génial. Et puis, boum! On va à la clinique, enfin, le gros rush d'excitation, enfin, voilà, ça te vient de nulle part. Et moi, j'aime bien cet effet de surprise. Le fait de déclencher, c'est le contraire. C'est planifié, c'est du stress. Tu n'arrives pas à dormir la veille parce que le lendemain, tu sais ce qui t'attend. Donc, c'est une autre dynamique. C'est pas mauvais, c'est juste. C'était plus stressant pour moi, je trouve. Donc, la veille, il fallait se préparer. Voilà, demain, c'est un déclenchement. C'est pas évident. Donc, il faut gérer psychologiquement. Il faut se préparer. Donc, bon, l'avantage, c'est que tu peux préparer tes affaires à l'avance parce que tu te dis, si j'y vais et qu'effectivement, on me refait un monito et qu'on me dit, c'est bon, c'est aujourd'hui, ben, il faut être prêt. Donc, 8h30, j'arrive à la clinique. Enregistrement 8h40. Choix de la chambre, enfin voilà, les choses se font assez rapidement et à 45, je vais en salle de monito.